Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Hey Tony, habituellement, les mafieux, ce qu'ils veulent pas, c'est, genre, attirer la police. Hein? C'est, ils veulent pas les voir.
D'habitude, ils veulent rien avoir à faire. Nous autres, ils s'arrangent avec le trou.
C'est ça. Ils veulent pas les voir, ils règlent les affaires entre eux autres. Bon. Mais là, toi, t'as une histoire de, je pense, c'est en 2012, c'est arrivé dans le temps des fêtes. Le 911, la police a reçu un call d'urgence d'un membre de la mafia.
Exactement.
Genre, un appel à l'aide.
Oui.
De la mafia. C'était quoi?
Ben, l'histoire est super intéressante. Même qu'il y a, il y a des petits bouts que tu croiras pas, tellement que c'est vrai.
Je te crois tout le temps, arrête!
Oui, tu me dis ça, mais c'est juste parce que t'es fin.
C'est vrai. Salut, c'est Claude Legault. J'ai co-écrit « Appelle-moi si tu meurs », une série policière avec Pierre-Yves Bernard. Et on a eu la chance de travailler avec un spécialiste du domaine policier, Anthony Donato, ex-lieutenant détective, a une véritable mine d'or de renseignements. Et on a découvert aussi que cet homme-là était un conteur extraordinaire. Donc, après la série, on a eu l'idée de l'asseoir devant un micro pour qu'il nous raconte ses meilleures histoires d'enquête.
Tu me parles de la série d'invasion de domicile.
Ouais.
Mais là, ce qui est arrivé dans cette situation-là, ben regarde, c'était la veille du jour de l'an. La maison était remplie d'enfants, de grands-parents, sa femme était là. Puis là, ça cogne à la porte. Le grand-père s'en va répondre. Puis là, il y a des gars qui rentrent cagoulés, armés de 12 tronçonnés. Bang! Donne un coup de crosse de 12 sans mâchoire du grand-père. Le grand-père tombe à terre, il saigne. Puis là, ben, regarde, tout le monde se fait attacher, ligoter. Puis ils n'ont pas eu le choix, ils ont appelé la police pour avoir de l'aide.
Allô, la police.
Ouais. Si le mafieux avait été tout seul dans la maison, jamais il y aurait eu d'appel au 911.
Il aurait riposté peut-être.
Il serait arrangé avec ses troubles, il aurait fait leur enquête parallèle, puis il aurait fini peut-être par trouver c'est qui avait fait ça. Mmh. Mais là, les beaux-parents sont victimes, le grand-père est plein de sang, les enfants pleurent, sa femme pleure. Tout le monde dit « call 911, call 911 ». Il n'y a pas le choix. Il fait 911.
Attends, il fait 911 pendant qu'ils sont encore là, non?
Non. Les gars font ce qu'ils ont à faire.
Ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont volé tous les objets de valeur de la maison.
OK.
Mais ils cherchaient surtout de l'argent.
OK.
Mais notre mafieux, sa job legit, il était paysagiste. Mais on est rendu au mois de décembre.
Ben oui, c'est ça.
Ben, il est travailleur autonome, il n'a pas le droit au chômage. L'été, il fait un petit peu d'argent en dessous de la table. Mais il n'est pas supposé avoir de valise Louis Vuitton dans la maison. Oui. Il n'est pas supposé d'avoir les œufs Fabergé, je pense.
Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Des affaires qui vaut des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Il n'est pas supposé avoir ça. Mais il y a du luxe, une affaire incroyable dans la maison. Fait que là, lui, devant ces circonstances-là, il a pas le choix, il fait 9h. Les policiers arrivent, s'occupent des victimes, les ambulanciers sont là. Les policiers qui sont là, je te dirais que, tu sais, le 31 décembre de nuit, sont tous bons, les polices, là. Mais je te dirais que c'est pas nos vétérans qui sont là.
C'est des recrues qui se tapent des horaires.
D'habitude, ils se rasent même pas.
Ouais, c'est ça.
Ils sont pas rendus à avoir une lame de rasoir.
Ouais, t'sais. C'est ça.
Fait qu'eux autres sont un petit peu mal pris. Ils appellent leur sergent, ils appellent leur lieutenant, ils appellent les enquêtes. Moi, je travaille au crime majeur à ce moment-là. Mais par le temps qu'eux autres font leur job, ils m'appellent à 6-7 heures le matin. Fait que nous autres, on arrive le matin, l'identité judiciaire est là. On prend les empreintes, on prend la photo, on fait ce qu'on a à faire, mais il me dit pas qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la vie, là. Lui, c'est un jardinier, un paysagiste, hein?
Il a le pouce vert,
lui. Lui, il a le pouce vert. Puis il fait de la céramique, puis il fait du pavé uni.
Ah, oui, c'est ça. Ouais.
Fait que je te dirais que l'enquête avance pas vraiment. C'est le temps des fêtes. On est en congé, nous autres, aussi. Fait qu'on pousse pas vraiment sur l'enquête. Après le temps des fêtes, on m'appelle à 11h le soir. « Hey, Tony, il y a deux gars qui sont ici au comptoir, au poste de police, puis ils ont une femme avec eux autres, puis ils disent que c'est elle qui a volé chez eux. Puis c'est toi qui es en charge du dossier. » My God, qu'est-ce qui arrive, hein? Fait que là, je me rends au poste de police. J'ai deux gars qui sont là, ma victime mafieux, puis son ami, que lui, il est dans mafia libanaise. Puis je pitonne à l'ordinateur, puis les deux ont été victimes d'invasion de domicile dans le dernier mois. Fait que, il y a un lien, là. Puis là, ils ont une femme avec eux autres qui a comme le nez pété puis qui saigne un peu de la bouche.
Ils l'ont caressée un peu?
D'après moi, ils ont été très doux et gentils avec elle.
OK, hein? D'accord.
Fait que là, je demande à des policiers en uniforme de rester avec la femme. Je rencontre les deux gars. Puis là, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, eux autres me racontent qu'ils ont un petit problème de gambling. Puis qu'eux autres, ils vont jouer aux cartes dans un petit bar clandestin. Puis qu'ils trouvaient ça bizarre que les deux sont victimes de home invasion dans le même mois. Fait qu'ils ont fait un lien avec le petit bar clandestin. Puis il dit, c'est drôle parce que moi, le soir que j'ai gagné aux cartes, 3-4 jours après, je me suis fait voler chez nous. Puis lui, le soir qu'il a gagné aux cartes, 3-4 jours après, il s'est fait voler chez eux. Mais lui, il a pas appelé la police parce que quand il était chez eux, il était tout seul. Sa femme et ses enfants n'étaient pas là. Fait que lui, il s'arrangeait avec ses troubles. Fait que là, eux autres, ils ont refait leur petite enquête maison. Ils ont remonté au bar clandestin. Puis, ils ont accroché la barmaid. La barmaid, qui est une belle jeune femme, qui était là pour servir des drinks, puis à gérer un petit peu l'argent. Mais le genre de bar clandestin qui peut facilement avoir 30, 40, 50 000 piastres à la table pour une game de cartes, là. Puis là, elle, sans promesse ni menace, elle aurait fait des aveux à mes deux gars, à mon gars de la mafia libanaise puis de la mafia italienne. Ce qu'elle lui a dit, c'est que elle recevait un pourboire du frère d'un de ses amis pour dire qui avait gagné puis donner l'adresse de la personne. Exemple, elle vendait la job.
OK.
Elle n'a pas dit ça de gaieté de cœur, ça a pris une coupe de mornif, mais elle a fini par le dire. T'sais. Là, je demande aux policiers de prendre les versions de mon monsieur libanais puis de mon monsieur italien.
Séparément.
Séparément, pour savoir comment ils sont venus à trouver elle. En tout cas, les policiers prennent les versions de ces deux hommes-là. Moi, je m'occupe de la dame. Elle me dit « je veux pas porter plainte ». Oui, ils sont venus me chercher. Je voulais pas aller avec eux autres. Ils m'ont emmené dans le bois. Ils m'ont sacré des claques à la gueule jusqu'à temps que je dise que ce que je sais. C'est vrai ce que je lui ai dit. Puis là, elle m'a donné le nom de son frère. Elle m'a dit, je pense pas que mon frère était sa job, mais mon frère, il a des amis qui sont pas reposants qu'eux autres peuvent faire ça. OK. Fait que là, nous autres, on se retrouve face à une situation où il y a des membres du crime organisé qui sont victimes d'invasions de domicile par des poffins non identifiés qui ont peur de rien, qui rentrent chez le monde avec un 12 dans les mains cagoulé puis qui donnent des coups de crosse de 12 dans la face à des grands-parents. Là, là, là. Fait que veux, veux pas, ça devient très prioritaire. Le lendemain, on rencontre son frère. Puis là, son frère, il nous donne un nom. Il dit, je sais qu'il était 3-4, mais moi, le gars à qui j'ai donné la job, il s'appelle Monsieur K, mettons. Fait que là, nous autres, on commence notre renseignement, puis on fait nos affaires sur Monsieur K, avec qui est, parce que dans les gens qui sont rentrés cagoulés, ben, tu sais, même si t'as une cagoule, puis t'as des gants, ben, tu sais, des fois, le gant, il arrête là, puis la manche est près du poignet, tu peux voir s'il y a la peau blanche ou s'il y a la peau noire. T'sais. Fait qu'on savait qu'on avait un monsieur d'origine jamaïcaine, plus qu'haïtien, parce que quand il parlait avec un accent jamaïcain. Fait que là, on met de la filature sur M. K, Puis là, on commence à faire des liens alentour. Puis on le voit toujours en meeting.
Tu veux dire que tu le vois en meeting dehors, quoi?
Oui.
OK, puis vous prenez...
Il se promène, puis toute la journée, il arrête partout, puis il parle avec du monde.
Mais vous, vous l'observez, vous prenez des photos?
On prend des photos, on fait des vidéos, on a la filature dessus.
Oh, OK.
On construit nos motifs pendant ce temps-là. On fait installer des caméras près de chez eux. On identifie les gens avec qui il fait affaire. On réussit à obtenir un mandat pour le téléphone cellulaire de M. K. On voit que le soir de l'événement, dans le temps des fêtes, en 2012, à qui a parlé une heure avant le crime? Puis une heure après le crime. C'est drôle. Les gens à qui a parlé une heure avant puis une heure après, c'est tous des gens qu'on a vus, lui, en meeting avec dans les semaines suivantes. Après ça, quand on a eu les téléphones de tout le monde, on sort les tours de transmission. Parce que ces petites bébêtes-là, ces téléphones-là, ça parle, c'est incroyable. Là, puis là, on les met toutes sur la même rue, en même temps, au même moment. Fait que là, on a 4-5 suspects d'identifier. Là, on pourra pas les pogner par identification, par empreinte, par ADN. On n'a pas de traces nulle part. C'est archi-violent. C'est un crime écoutable. Donc, si on est capable de démontrer, nous autres, qu'on n'a plus aucune façon, la police, de pogner ces dangereux-là extrêmement violents, on a besoin d'écoute électronique. Mais là, c'était tellement pressant que c'était de l'écoute électronique d'urgence que ça nous prenait. Écouter des cellulaires, c'est facile. Mais on sait que les gens du crime organisé, ils parlent pas beaucoup là-dessus. Fait que ça va me prendre des micros dans l'auto, ça va me prendre des micros dans la maison, ça va me prendre des caméras d'un poteau, ça va me prendre une caméra dans l'auto. Moi, il faut que j'identifie mon monde, il faut que je fasse mes affaires, tu sais. Donc, on s'organise, nous autres, pour faire ce qu'on appelle un major. Un major, c'est une opération policière qui peut impliquer 25-30 polices en même temps. C'est très dispendieux, coûteux, puis ça prend une logistique importante là-dedans. Pis je vais lui dire, M. K reste à telle adresse, puis mettons, je sais pas moi, il y a un Honda CRV blanc. Bon, mais quand il part, partez dessus. Parce que pour être sûr que lui, il arrive pas dans mon dos, si moi, il faut que je rentre dans la maison, aller installer des caméras et des micros...
Pas te faire surprendre par lui, là.
Faut que je sache où ce qu'il est, tu sais. Okay. Parce que si lui, il revient, puis on le voit pas, puis il rentre dans la maison, moi, j'ai pas mon gun, j'ai pas mes bébelles, là. Fait que ça nous prend du backup avec des mitraillettes, puis tout ça. Fait que, tu sais, si on compte l'équipe technique, les deux enquêteurs, deux équipes de filature, puis un SWAT, on est 25. Le stress est à son maximum.
Ça prend combien de temps, mettons, une opération comme ça? Là? Lui, il part, vous ne savez pas dans combien de temps il va revenir.
On est contrôle dessus. J'ai un backup sur le périmètre. J'ai mon duo pour le coller. Si ça va bien, on est là trois quarts d'heure, une heure.
Okay.
Mais ça va jamais bien.
Okay.
Il y a toujours un bug qui arrive.
Genre,
je sais pas moi, la meilleure place pour mettre la caméra, ça serait là. Mais il n'y a pas d'électricité dans ce coin-là. Quand on installe nos affaires, on l'installe pour 60 jours.
Pour que ça soit sur le jus de la maison.
J'essaye de pogner du jus de la maison parce que ma batterie, elle t'offre pas 60 jours, tu sais. Fait qu'on cherche de l'alimentation électrique pis tout ça.
Puis vous passez le filage dans le mur parce qu'il peut pas voir les fils dépasser, là.
Il peut pas voir les fils dépasser. Je peux pas aller trop dans le détail, ben je veux pas scraper des dossiers d'enquête en cours.
D'accord.
Mais il y a des gars qui sont des artistes pour camoufler des affaires, tu sais.
Okay.
Tu sais, ça va aussi niaiseux que s'il y a une croûte de poussière sur la table, là, puis avec mon bras, j'accroche une trace de poussière, puis il y a une trace de propre. Ça a de l'air fou.
Ça, une belle mélamine noire, là.
Mais on a des canettes de poussière, mon Claude.
Ah,
psh, psh, psh. On shoot un petit peu de poussière là-dessus, puis ça revient crotté égal. Là, on commence à être équipé. Là, on a de la viande, notre écoute électronique, l'appartement. Là, il nous reste à pogner son auto aussi. Il est tout le temps dans son char. Mais avec l'écoute électronique, on sait qu'il y a un rendez-vous chez le dealer dans une semaine. Hey, mon beau-frère.
Okay, dealer, tu parles d'un concessionnaire de char.
Oui.
Je pensais un dealer de dope, moi, là.
Non, on s'en va chez Honda, maintenant.
Chez Honda, OK, d'accord.
Mais là, tu sais, quand on est 50 polices, dans 50 polices, dans notre réseau, il y en a un qui a un beau-frère ou un cousin qui travaille chez Honda. Fait que là, on l'appelle, on y fait confiance, c'est un membre de la famille, hein. Jeudi prochain, t'as un Honda CRV blanc qui va rentrer. Il faudrait que je sois tout seul avec l'auto pendant une petite heure. J'ai des affaires à faire dessus. Pas de trouble, viens après heure. Nous autres, le soir, on est arrivés là. Puis là, ben, on a installé nos caméras puis nos micros là-dedans. Et ça aussi, faut se plugger sa batterie du char pour avoir du jus tout le temps. Puis les gars font ça à l'année. Sauf que là, on a des fils à passer. Fait que dans les moulures de porte en plastique, chaque côté du windshield, les gars, quand ils ont démonté ça pour passer des fils, quand ils l'ont remis, ils l'ont craqué. Ils ont craqué la moulure. Pour nous autres, c'était dramatique, là. Moi, il était rendu 2h du matin, je suis chez nous, j'avais travaillé 20 heures dans la journée, je viens de me coucher, on m'appelle, Tony, on vient de gaffer, on a craqué la moulure de char. Le gars va le savoir, parce que le gars récupère son char le lendemain. On vient de tout brûler l'enquête. Ben, regarde, on est chez le concessionnaire. Il y a toutes les pièces.
Change-la, la moulure.
Change-la, envoyez-moi le bill, on va le payer, c'est pas grave. Là, t'sais. Ouais, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Quand les gars des pièces y arrivent le matin, évidemment, la pièce est au Japon, puis on l'a pas, tu sais. Fait que là, on a essayé de la recoller, puis on a essayé de l'arranger, mais c'était pas fameux, notre affaire, tu sais. Fait que quand le gars, il a récupéré son auto ce matin-là, il avait la filature dessus, il a pris l'auto en dedans de 1 heure. Il était rendu dans un garage pas trop legit à Montréal-Nord, puis 5 minutes après, il n'en avait plus de micro. Il avait remarqué que le petit bout de plastique était craqué, il a pensé tout de suite à l'écoute électronique. Il était d'un garage.
Il a fermé sa gueule, il est allé là-bas.
Il n'a pas dit un esti de mot. Puis là, après ça, notre écoute électronique était pas mal brûlée sur lui. Là. Il parlait plus chez eux, il parlait plus au téléphone. Il a changé ses numéros, il a tout changé ses affaires.
Fait que là, lui, il savait que ça pouvait avoir rapport aux invasions qu'il avait faites, probablement. Qu'il était,
oui.
Que là, il était tagué par la police. Là.
Mais si on est en écoute, il savait, lui, qu'on n'avait pas encore assez pour l'arrêter. Fait qu'on était en mode enquête. Mais lui, il continuait à voler. Mais le gars, c'était un bon bandit, là. Faire de la filature, c'est un art. Mais lui, il faisait de la contre-filature dans le tapis. Fait qu'au lieu d'avoir une équipe de filature de 5 ou 6 gars dessus, on était rendu qu'on avait un GPS sur son auto pour le suivre à distance. Puis on gonflait l'équipe de filature. On mettait 7, 8 puis 9 gars parce qu'il était trop dur à suivre. Les fins de semaine, parce que les bons bandits savent que les escouades spécialisées de police, on travaille pas la fin de semaine. C'est niaiseux à dire, mais la filature, ben, ils sont off. Les agents doubles, le SWAT, les crimes majeurs, on est off la fin de semaine, on travaille la semaine.
Hein? C'est la fête au village.
Ben oui. Ouais. Ils font le meeting, ils font des déjeuners, ils font le mauvais coup. On est tous en congé. Mais les gestionnaires de police de premier niveau, s'ils vont voir le boss puis ils disent, tu sais, dans tel dossier, dans le projet Vésuve, là, ça serait bien important, il faut rentrer samedi, il va se passer quelque chose samedi. Big boss va dire, ben, regarde.
En double.
C'est en double toute la fin de semaine. Vous êtes en temps supplémentaire. J'ai pas le budget pour ça. C'est non. T'as beau, toi, comme lieutenant, dire ça me le prend. En bout de ligne, tout le monde veut gérer son budget, puis c'est non. T'sais. Mais les fins de semaine, là, c'est les lignes d'écoute électronique. Là. Mais on m'appelait aux demi-heures puis aux heures. Tony, ils s'en vont faire une job. Tony, il vient d'acheter un fusil de calibre 12. Il vient d'acheter une 3. Il dealait des guns dans le tapis. Il en vendait. Il en achetait. Il achetait des silencieux. C'était débile.
Vous êtes en viré de bord, là. Un coup que l'écoute ne fonctionne plus, vous faites quoi? Après ça?
Ben, l'écoute fonctionnait plus chez M. K.
Chez M. K.
Fait qu'on avait de l'écoute ailleurs.
Mais lui, il a pas prévenu les autres en me disant, gars, je suis sous écoute.
Moi, je suis sous écoute. Checkez-vous. Ouais. Checkez vos affaires. Mais les gars sont bons. Ils ont rien trouvé. On n'a pas pété de moulure de plastique, là, t'sais.
Okay.
On avait des caméras chez eux. On sait, en les écoutant, qu'ils ont été faire un burn de drogue chez un gardien de prison. Parce que le gardien rentrait de la drogue en prison. On a su ça parce que la filature était dessus.
Méchant gardien.
Ah, tu sais, tu l'apprends par la filature, t'entends les gars parler de la job, puis là, avec nos caméras d'un poteau là, au bas de la rue, on voit les gars revenir à la maison avec une poche de hockey. Ils rentrent tout avec la poche de hockey qui est pleine de... C'est comme un film, là. Puis quand ils sont repartis, c'est là qu'on les a arrêtés. Fait qu'on les a arrêtés avec le butin, là. Fait que là, on les avait comme la main dans le sac. Fait qu'on était capable de les arrêter pour cette invasion de domicile-là. Fait que là, on a continué à travailler le dossier. Puis, on a fini par avoir assez de motifs. Puis on les a identifiés avec notre gardien de prison, puis tout ça, pour faire l'arrestation de tous ces gens-là. Puis, on a fait quelque chose d'assez particulier là-dedans. Parce que notre Monsieur K, il était tellement un bon bandit, là, que... On a été créatifs, puis à l'époque, on n'avait pas besoin de mandat d'écoute électronique pour faire ça. J'ai pris un de nos agents doubles, qui était spécialisé en drogue, puis je l'ai installé dans cellule numéro 7. Puis là, lui, quand on l'a arrêté, on l'a mis dans cellule numéro 8. Puis, quand le suspect, M. K, est arrivé, il ferme sa boîte au début, il a parlé à son avocat, mais veut pas... Tu parles avec ton voisin à côté, hein, t'es là, pourquoi, puis t'as ta fête, puis ci, puis ça. Fait que là, on s'est arrangé pour que mon agent double, elle fait prendre ses empreintes. On en a mis un autre là. Fait qu'en revenant, on les a mis les deux dans la même cellule. Ben, M. K a donné un cours de contre-filature à mon agent double. Dans les cellules du poste de police, là. Alors, regarde, si tu penses que t'es suivi, ben... Tourne à droite, puis break, ou fais un U-turn, fais ci, fais ça. Si t'arrives sur une lumière rouge, klaxonne. Si le gars te regarde pas, c'est pas normal, c'est une police. Un paquet d'affaires.
Mais tu disais qu'il était brillant tantôt. Il a pas eu une crampe au cerveau. Là. Je veux dire, il pense pas que la cellule peut être
sous écoute. Il a jamais vu ça venir, lui. Quand t'es au poste de police, c'est écrit en rentrant, toutes les conversations peuvent être enregistrées.
Mais c'est ça que je te dis. Qu'est-ce qu'il y a pris?
Ben, notre gars, il était bon. Il a ouvert des portes, il a posé des questions ouvertes, l'autre il a embarqué, mais il y avait de l'aide d'un vrai bandit, mon double. Là.
Okay.
T'sais, je pense que au niveau criminel, il y avait de l'épée que M. K. Là,
okay.
Après ça, M. K, on l'a passé en interrogatoire, il a jamais voulu parler, il a pas dit un mot. Puis il a été accusé pareil, puis il a été trouvé coupable, ils ont tous été trouvés coupables, toute la gang dans tout ça, t'sais. Moi, je te dirais, là, j'ai eu une belle carrière. Là, j'ai fait tous les types de crimes. Là. C'était le gang le plus violent, agressif, criminalisé que j'ai eu à enquêter en 30 ans de police. Puis encore dernièrement, là, parce qu'on ne peut pas vraiment dire de nom, là, mais un des membres de mes 4-5, là, mais il était un tueur à gages, il n'a pas longtemps. Puis il faisait partie des 10 criminels les plus recherchés au Canada. Dernièrement, là, en 2019.
C'est un costaud.
Ah, oh, tu le connais, tu l'as vu dans le journal?
Ben oui.
Bon, ben, j'y ai parlé souvent, lui, déjà. Mais nous autres, on se le disait, il est malade mental, c'est un psychopathe, ce gars-là. Jusqu'où qu'il va aller dans sa carrière, ça te motive encore plus à le pogner. Moi, le pogner, puis je vais le pogner solide. Mais tout ça pour dire que dans cette histoire-là, rocambolesque, si on n'avait pas eu notre barmaid au début, on n'en serait jamais venu à bout, là. Puis la barmaid, on lui a donné un statut d'informateur là-dedans. En étant elle voulait pas porter plainte, donc elle voulait pas être victime, puis elle était pas obligée de venir témoigner. Mais moi, j'ai fait des dossiers de crimes organisés pendant des années, des années, des années. On en a parlé souvent pendant la télésérie aussi. Quand tu travailles une sphère du crime organisé, si tu n'as pas un informateur à l'interne, tu n'en viendras pas à bout. Tu as beau avoir toutes les moyens, les techniques d'enquête à ta disponibilité, si t'as personne qui te fie de l'intérieur, ça marchera pas.
Ça te prend une taupe. Appelle-moi si tu meurs, le balado est une production de Zone 3. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, je m'appelle Claude Legault, le lieutenant détective à la retraite, c'est le seul et unique Anthony Donato. Si vous êtes aussi captivé que moi par les histoires racontées par Anthony Donato, ancien lieutenant détective à la section anti-gang de la division du crime organisé, vous allez aimer la série inspirée par ses récits. Anthony?
J'espère.
C'est sûr. Ne manquez pas Appelle-moi si tu meurs, lundi 22h sur Addict TV ou sur demande chez votre télédistributeur. Merci d'être à l'écoute. À bientôt.